100 meters, go straight, and then go straight.
Entre les pages. Bonjour à tous et bienvenue dans Entre les pages, toujours votre émission qui parle du monde des livres en Anjou. Aujourd'hui avec l'invité Mathilde Gall, en résidence à la maison Julien Gras, je crois que je tiens une des réponses à cette question effrayante. Pourquoi écrire ? Parce qu'on ne peut pas ne pas se poser cette question devant l'inflation toujours plus accentuée de la production littéraire. À mon humble niveau, j'arrive pas à suivre. On ne peut pas ne pas se poser la question, dis-je, comme j'imagine, toutes les autrices et les auteurs doivent faire de même. Parce qu'écrire, ça suppose à minima d'être lu. Mathilde Gall et le collectif Tcholei auraient-elles trouvé, après tant d'années et de siècles, la martingale imparable ? C'est à cette interrogation que je vais consacrer cette émission. Bonjour Mathilde Gall.
Bonjour.
Bonjour Margot Hanard.
Bonjour.
Et bonjour Abby.
Bonjour.
Qui est en service civique, qui démarre un service civique à la maison Julien Gracq. Mathilde Gall, je sais que vous êtes en résidence à la maison Julien Gracq. Je sais que vous avez auto-édité deux livres, Germe et Décom. Que vous avez publié Des vies orageuses aux éditions Le Monde à l'envers. Je sais que vous êtes ou vous avez été travailleuse sociale, mais c'est tout. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ?
Je pense que vous avez dit quand même le plus important. En effet, je m'appelle Mathilde Gall, déjà. Je suis autrice, travailleuse sociale et militante. Et je crois que dans ma vie, les trois choses les plus importantes, c'est la montagne, les histoires, qu'elles soient lues ou écrites, et l'organisation collective.
Donc, ça traverse toutes les vies orageuses, travailleuse sociale. Alors, travailleuse sociale, c'est un mot qui est tellement vaste qu'en fait, on ne sait pas ce que c'est. Donc, vous avez été travailleuse sociale dans quoi, pour quelle structure, pour un département, pour une caisse d'allocation familiale ?
Eh bien, pour moi, travailleuse sociale, je continue de l'être, même si je ne suis plus payée pour le faire. J'ai rapidement été engagée dans plein d'associations où j'ai plutôt accompagné travailler la question comment on s'organise collectivement. Et puis mon premier boulot salarié a été d'accompagner des personnes qui en difficulté sociale faire des stages d'alpinisme. Du coup, c'était plutôt de la précarité en partenariat avec ATD Quart-Monde. Ensuite, j'ai travaillé comme chef de service en foyer communautaire de personnes en situation de handicap. J'ai eu beaucoup de chance. En fait, j'ai fait ça parce que j'ai été reçue parce que j'avais passé 2 ans et demi dans un squat à la frontière à Briançon et qu'ils se sont dit que avoir fait ça, ça permettait d'accompagner des équipes et des personnes en situation de handicap. Et je continue à le faire comme en passe-temps, comme une activité extrascolaire. J'accompagne des personnes exilées qui demandent l'asile pour homophobie au centre LGBTI de Grenoble. Donc pour moi, c'est vraiment... J'aime bien ce terme de travailleuse sociale parce que il a une résonance politique à travers des collectifs qui s'organisent et il fédère un grand groupe de personnes autour de prendre soin et de croire que les différences, c'est quelque chose qui enrichit et pas quelque chose qui divise.
Alors, ça m'amène à poser une autre question. Votre cursus de formation, c'était quoi ?
Eh ben, c'est maintenant la première fois de ma vie où j'utilise mon cursus de formation pour ma vie professionnelle, puisque j'ai fait des études en littérature et que j'ai en parcours de prépa et mon master en lettres modernes en littérature comparée et j'ai jamais travaillé à partir de ce master-là. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression de mettre en pratique en tout cas mes années d'études.
Alors, vous avez votre parcours, on vient de l'entendre, au-delà de la formation universitaire en littérature, c'est un parcours d'engagement, de militance. On entend LGBT, on entend migrants, on entend handicap. Donc c'est cette résidence que vous faites, elle s'inscrit dans un programme interministériel culture justice. Déjà là, ça fait un petit peu froid dans le dos, mais culture justice, pourquoi pas. Dans ce dispositif, on est au cœur de l'institution avec un grand I. Cela donne un quel sentiment quand on a eu une vie d'engagement militant?
C'est une question que je me suis posée en postulant, en me disant tiens, c'est drôle, ma résidence précédente c'était aussi avec avec l'Institut français, donc en lien avec le ministère des Affaires étrangères, et je me suis vraiment dit je me sentais pas très à l'aise avec ça, et en même temps ce que j'ai compris dans ma précédente expérience professionnelle, que c'est dans les institutions on peut rencontrer des personnes qu'on ne rencontre pas ailleurs. Dans mon travail de travailleuse sociale, j'ai eu accès à une grande diversité de personnes que j'aurais pas rencontrées ailleurs, qu'elles soient parce qu'elles étaient socialement pas de ma classe sociale, que ça soit plus haute ou plus basse, parce que c'était des personnes que j'aurais pas croisées. Et là, le fait d'aller en détention, ça m'intéressait parce que ça me permettait d'avoir rencontré des personnes que j'aurais jamais pu connaître par ailleurs. Donc c'est plutôt cet aspect-là qui m'intéressait.
Alors quand vous dites aller en détention, c'est comme intervenante en littérature, oui. Hein, c'est pas vous n'avez pas commis d'acte délictueux, non. Même si j'ai cru comprendre que dans votre vie vous avez frôlé à plusieurs reprises l'acte délictueux.
Ma faute, c'était les lois qui étaient mauvaises.
Voilà. Ah, c'est toujours les lois qui sont mauvaises, c'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors il y a ce livre Des vies orageuses, une écriture collective puisque elle a été faite avec le collectif Tcholei. Et là, il n'y a pas d'échappatoire. Le collectif Tcholei, c'est qui?
Le collectif Tcholei, il s'est construit petit à petit autour de l'écriture du livre. Donc, c'était d'abord les deux personnes qui m'ont proposé d'écrire ce livre. Donc, j'ai coutume de dire que je suis arrivée 5 minutes après la création de ce collectif. Il n'avait pas de nom. Et petit à petit, donc dans le processus, peut-être qu'il faut que je parle pour ça du processus d'écriture. Donc, deux amis qui étaient médecins dans un centre de dépistage. Voyait passer beaucoup de personnes exilées tous les jours devant en consultation, et elles avaient besoin de témoigner de ce qu'elles vivaient. En tout cas, elles n'arrivaient pas à parler de ce qu'elles vivaient et de ce qu'elles voyaient devant elles, des personnes qui étaient souvent à la rue, qui étaient dans des situations très précaires. Et elles ont accompagné une famille avec 4 enfants qui étaient à la rue. Et elles ont essayé de leur trouver un appartement. Elles ont finalement trouvé une asso qui pouvait porter, donner son nom pour une location, à condition qu'elles rédigent en appel à don. Et cet appel à don leur a permis de fixer des mots sur ce qu'elles vivaient, leur a fait beaucoup de bien. Et elles ont décidé, après, par je ne sais quel moyen, quel biais de réflexion, d'écrire un livre sur l'exil pour pouvoir parler. Et elles ont trouvé que c'était très agréable de pouvoir donner en texte à des gens qui n'y connaissent rien pour les sensibiliser. J'étais à ce moment-là dans leur maison, qui était une maison qui accueillait aussi des exilés, et que je m'étais cassé la cheville. Elles m'ont proposé d'écrire ce livre.
Alors, Des vies orageuses, cela raconte la trajectoire de deux personnes, Sarah, une toute jeune médecin, et Idrissa, un migrant. Surtout, c'est un roman, même si ce n'est pas écrit sur la couverture. Compte tenu de vos histoires respectives, à vous et au collectif, pourquoi ne pas avoir écrit un documentaire?
Ça, c'est une de mes questions, bref. Il y a plusieurs raisons. Déjà, je pense que je ne sais pas écrire des documentaires. Enfin, moi, ce qui m'intéresse, c'est les histoires. Je trouve que les histoires ont beaucoup de force et que c'est par là que je veux transmettre des idées. J'ai inscrit ce roman dans la lignée du roman social avec l'idée que on avait une envie que les personnes qui ne connaissent rien à l'exil puissent approcher la complexité de la vie des exilés par un biais qui soit fondé sur pas sur des chiffres, pas sur quelque chose de très mécanique et rationnel, mais sur l'identification, sur la proximité. Je suivais en cela Alice Zeniter, qui est une autrice que j'aime beaucoup et qui a écrit en une petite conférence qui s'appelle « Je suis une fille sans histoire ». Alors, maman, elle dit qu'on pense que notre vie sociale, elle est fondée dans monde unifié, mais qu'en fait, elle est fondée de sous-mondes qui ont la méconnaissance de leur manière réciproque et même le dégoût de leur manière réciproque. Et ça, c'est particulièrement vrai avec les personnes exilées. Dans le pire des cas, c'est des délinquants. Dans le meilleur des cas, c'est des parasites quand on écoute les journaux. Et nous, on voulait créer des ponts entre les gens. En tout cas, qu'on se rende compte que ce que, ben, par exemple, c'est de l'attente, l'impuissance dans lequel sont les personnes exilées, ben on puisse les comprendre et les relier à nos expériences personnelles. Donc pour moi c'est vraiment le pouvoir de la fiction. Et il y avait cet aspect-là. Après il y avait aussi la volonté de donner la voix à des personnes et de les anonymiser parce que vu que c'est fondé sur des consultations médicales, il y a le secret professionnel qui joue. Et on voulait que ça soit pas des personnes qu'on puisse reconnaître. Parce que d'ici à Angers, bien sûr, on les connaît pas. Mais à Grenoble, c'est des personnes qui vivaient sur place et on voulait pas les mettre en danger.
Alors, juste un point d'éclaircissement dans le propos que vous venez d'avoir là, tout de suite. Vous utilisez le terme d'exil, d'exilé, plutôt que le terme de migrant.
Oui, les batailles sémantiques sont nombreuses autour des termes qu'on utilise pour la migration et elles disent des postures politiques. Le mot migrant, il a été inventé après la pseudo-crise migratoire de 2015. Et en fait, il revêtrait normalement que des personnes qui sont en train de se déplacer. Ça pourrait être l'équivalent de déplacer qui est utilisé par l'UNESCO. Et le terme exilé, moi je l'aime bien parce que les personnages de mon livre, ils sont pas migrants, ils veulent rester quelque part, enfin le plus souvent ils veulent rester en tout cas ceux qu'on décrit, ils veulent rester en France et du coup leur point commun c'est d'être hors de leur patrie, d'être exilé. Au début je voulais utiliser expatrié mais on m'a dit que ça marcherait pas.
c'est pas bon. Non, là moi je peux vous le dire, c'est pas bon.
Non, c'est pas bon. Mais en tout cas cette notion de être hors de la patrie, et c'est aussi un mot qui est utilisé plutôt dans les mouvances militantes. Voilà.
Alors ce roman, c'est il y a un dispositif dans ce roman. Mmh. C'est, je l'ai dit, deux parcours, deux voies. En réalité, qui est-ce qui a pensé à cette forme-là ? Parce que on est d'un côté, du côté de Sarah, à un autre moment, on est avec Idrissa, c'est très bien compartimenté dans le livre, les chapitres sont alternés. Qu'est-ce qui a pensé à un dispositif de cette nature-là, à deux voies ?
Eh ben, je pense que quand on s'est posé la question d'écrire ce livre avec Valentine et Riwana, mes deux amies, on ne savait pas trop où on allait et on s'est raccroché à un livre qu'on avait lu qui s'appelait « De rêve et de papier » de Rosena Leberg, je crois, et où c'est à peu près le même, c'est un documentaire et c'est une travailleuse sociale qui raconte et puis le voyage dans des jeunes qu'elle accueille de l'autre en parallèle. Et du coup on est parti un peu de ça parce qu'on voulait à la fois pouvoir raconter en profondeur une expérience de personne exilée, donc Idrissa, et aussi pouvoir montrer la complexité de toutes les situations, en tout cas la multiplicité de toutes les situations de personnes exilées. C'est-à-dire que quand on pense exilé, on pense à un homme noir d'Afrique de l'Ouest principalement, jeune. Et en fait, 52% des exilés sont des femmes avec leurs enfants. Et donc nous, on voulait montrer aussi, on pouvait pas le faire si on n'avait pas ces deux voix. Donc Sarah, elle a d'abord été pensée comme réceptacle de plein d'histoires croisées, ou en tout cas, et on voulait, c'était important pour nous que ces deux personnes soient pas à égalité, qu'on comprenne que Idrissa était le personnage principal. Donc c'est aussi pour ça qu'on a fait des choix d'énonciation qui permettent de dire que nous, notre but, c'est de raconter l'histoire des personnes exilées et que Sarah, même si elle a une place importante, c'est pas son histoire qui est la plus importante.
Ça, je suis pas convaincu de ça. Hein. Je suis désolé, mais je suis pas convaincu de ça.
Je sais, mais je sais pourquoi. C'est parce que, en tout cas, c'est parce que la force d'identification avec le personnage de Sarah, il est tellement fort parce que elle est blanche, parce qu'elle est française, parce qu'elle est dans un milieu qui est similaire à la plupart du lectorat, que son histoire, elle prend beaucoup de place. Et aussi parce que son histoire, c'est en partie la mienne et celle de mes amis, et que je pense qu'on avait besoin de dire des choses. Mais en tout cas, nous, ce qu'on avait envie, et c'est notamment le fait, par exemple, que j'ai choisi de mettre Idrissa à la première personne du singulier, c'était justement pour qu'on ait accès à son regard à lui, alors que celui de Sarah, en troisième personne du singulier, il est un peu décalé.
Là, c'est votre réponse, c'est pas la mienne. Mm-hmm. Vous faites les questions et les réponses.
Eh oui, désolé.
Donc, oui, mais on y reviendra. Mais je ne resterai pas là-dessus. Donc, d'accord. On y reviendra. C'est parce que c'est trop facile. Sinon, je m'en vais. Hein, en fait, finalement, je m'en vais.
Alors, vous savez, on a quand même l'habitude de tourner sans questions pendant longtemps. Donc, je pourrais. Et ce ne serait pas très intéressant.
C'est Didier Fassin qui préface ce roman. Didier Fassin, médecin, sociologue, anthropologue, professeur au Collège de France, honoré de multiples récompenses, auteur de nombreux ouvrages, personne éminente, chercheur magnifique. Enfin, vraiment, c'est des gens comme ça, on a envie d'en rencontrer parce que eux, ils nous apprennent vraiment la vie. Enfin, j'ai le sentiment qu'ils nous apprennent vraiment la vie. Sa propre vie est extraordinaire. Qui vous a mis en relation avec Didier Fassin?
Didier Fassin, en plus de tout ce que vous avez dit, il faisait des maraudes à Briançon. Je pense que j'ai pas l'impression que ce soit quelque chose qui soit caché. Donc, moi, je l'ai pas rencontré, mais j'ai des amis qui étaient faisaient des maraudes. Donc, les maraudes, peut-être qu'il faut que j'explique, c'est les personnes qui traversent la frontière franco-italienne au niveau de Briançon passent par la montagne, et souvent, c'est des personnes qui ont jamais vu de montagne, qui traversent en plein hiver, qui doivent se cacher parce que le danger, c'est pas la montagne, mais c'est les forces de l'ordre, la police qui patrouille et qui les ramène à la frontière, qui peut les tabasser, qui les raquette. Donc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour éviter d'être vus. Et souvent, ils se perdent. Et souvent, ils ont des petites chaussures. Donc, il y a des personnes qui vont du côté français venir en aide. Si jamais il y en a qui sont perdus, ben on les ramène. S'il y en a qui sont blessés, Médecins du Monde s'en occupe. Et Didier Fassin faisait ça. Et j'ai un ami qui nous a mis en contact. Parce qu'il lui a demandé, et je lui ai envoyé le manuscrit, et il a dit, il a dit que c'était un livre touchant, et du coup, il a accepté de le préfacer.
Vous prenez sa préface comme une caution politique, ou au contraire, comme un encouragement?
Eh ben, moi, on avait vraiment ce truc de notre bouquin, il va pas se vendre. Du coup, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'il soit un peu plus vendable? Donc, l'idée de la préface est assez rapidement arrivée. Du coup, c'est plutôt comme caution de sérieux, je pense. Et au-delà de ça, moi, je pense, enfin, en tout cas, je pense que c'est une des premières personnes qui a lu le livre, en tout cas, la version définitive du livre. Et je pense que ce qu'il en a dit, ça m'a touchée. Après, maintenant, je me dis, si dans le meilleur des mondes, je pense que j'aurais adoré que la personne qui fasse ma préface, ça soit Destin, qui est Giscard d'Estaing, qui est cité dans le livre, qui est une personne camerounaise que j'ai rencontrée quand j'ai quitté en squat à Briançon quand j'y étais, et qui lui avait était très affûté politiquement, et j'aurais adoré que ça soit lui qui fasse ma préface en plus de Didier Fassin.
Parce que Didier Fassin, faut bien le reconnaître, c'est classe.
Oui, c'est classe. Oui, ça je reconnais, c'est vraiment cool.
Eh bien, je vous propose qu'on fasse une première pause musicale. un peu de jazz dans Entre les pages sur Radio G. C'était le groupe Bodies qui a joué Anti-Dancing League. Et je vous propose de rejoindre maintenant Mathilde Gall, autrice avec le collectif Cholei du roman Des vies orageuses. Dans ce livre, la question des règles et des procédures est en filigrane. Chez Idrissa, parce qu'il les compare toujours avec les pratiques africaines qui s'appuient sur la confiance. Chez Sarah, parce qu'elles représentent des obstacles systématiquement absurdes à ses yeux. Pourtant, ce qui fonde la République, c'est le droit. Quel est votre regard sur ces multiples dispositifs ?
Alors, je ne suis pas spécialiste du droit, donc je ne vais pas parler de ça. Je pense que je vais juste parler du droit d'asile. Pour moi, c'est important qu'il y ait un droit, sauf que, le droit peut être peut représenter un vrai obstacle et une vraie douleur pour des personnes. Au sens où dans le droit d'asile, c'est les grandes règles qui règlent le droit d'asile, c'est les lois asile et immigration qui sont votées tous les 18 mois et qui deviennent de plus en plus restrictives et qui sont de plus en plus maltraitantes. Et dans ce cas-là, en tout cas, c'est le fait que ce soit les délais qui s'allongent, les difficultés qui se rajoutent à chaque fois, ça c'est une vraie entrave à d'autres droits qui sont notamment le droit de circuler. Ce qui est encore plus fort pour moi dans la situation de l'exil, c'est que il y a une injustice profonde qui est que moi, en tant que Française, je peux aller vivre, j'ai vécu en Inde, je peux y aller sans trop de problèmes et je serai accueillie là-bas plutôt valorisée, plutôt exaltée, comme, enfin, en tout cas, on m'a même dit que j'étais élégante quand j'étais en Inde. Alors que quand, qu'une personne qui vient d'Inde, notamment, et pour venir en France, même temporairement, elle doit présenter une paperasse, mais incroyable, dont des lettres de moralité signées par ses parents et ses profs à l'université. Enfin, plein de choses aberrantes. Et je crois que c'est pour moi, c'est quand le droit il crée des injustices aussi fortes, on a le droit et le devoir d'agir contre.
Toujours sur cette question de droit, et c'est bien que vous ayez rebondi sur la notion de votre connaissance d'un champ particulier du droit, qui n'est pas la totalité du droit. Peut-être que c'est un artifice, peut-être pas d'ailleurs, hein. Dans le roman, il y a un moment donné, Idrissa vous présente. N'importe quoi. Présente une affiche qui s'appelle « Nous, frères et sœurs africaines, frères et sœurs noires exilés sans papier ». C'est une vraie affiche ?
Non, c'est un mélange de plusieurs choses. Il y avait une affiche des Gilets Noirs, qui sont une organisation syndicale de personnes, de livreurs, principalement sans papier, et travailleurs du bâtiment sans papier, qui étaient dans les toilettes de l'endroit où j'habitais. Et elle avait ce ton-là. Et après, l'autre procédé qui m'a donné envie de créer cette affiche, c'est le livre d'Édouard Louis, Qui a tué mon père ? Oui, à la fin, il fait la liste, il accuse toutes les personnes qui ont, dont les impacts, dont les lois ont eu un impact concret sur la santé de son père. Et moi, ça m'a fait, enfin, ce que j'ai retenu de ce livre, c'est que il y a certains cas où les opinions politiques, c'est pas une question d'idéologie, c'est quelque chose de très, très, très concret et qui a un impact extrêmement fort matériellement. Et ça, c'est quand la vulnérabilité et la précarité est forte. Et c'est la situation des exilés que j'ai vu vivre, en tout cas que j'ai vécu avec eux, c'est vraiment ce truc où le moindre changement dans la loi, et ben, ça a des répercussions très pratiques dans leur vie.
Alors, cette affiche, elle fait l'inventaire, enfin, je dirais presque plutôt le catalogue de toutes les lois de restriction par rapport aux exilés. J'avais mis migrant sur ma feuille, mais maintenant je vais utiliser le terme exilé. Dans le roman, elle a un double effet. Elle évite de devoir toutes les illustrer, et puis leur empilement en montre là leur disproportion. Vous recherchiez, vous, quel effet au travers de cet événement dans le livre, enfin de ce moment du livre, parce qu'il n'est pas anodin, c'est une affiche, c'est écrit, c'est pas écrit n'importe quoi. Quel effet vous recherchiez en fabriquant cette affiche ?
Eh ben, peut-être que c'est le fait que l'endroit dans le livre est clair. C'est à la fin du livre.
Oui, c'est tout à la fin. Hein. Oui.
Et pour moi, c'était important de finir ce livre sur à la fois. Je voulais pas une fin qui soit artificielle. Je voulais pas que tout d'un coup ça se finisse hyper bien. Je voulais que ça, ça soit une fin plus ouverte, mais qui montre une prise de puissance d'Idrissa. Je voulais montrer que même dans, si rien n'a changé, Idrissa est toujours dans les mêmes galères. Ce qui a changé, c'est qu'il a, il y a dans les épreuves, il y a de la vie qui jaillit, il y a de la joie qui jaillit et il y a de la prise de puissance. Donc, pour moi, là-bas, à l'origine, c'était vraiment un moyen de montrer comment Idrissa pouvait reprendre de la force et, par l'organisation collective, sortir de la sorte de torpeur dans où les lois ou le droit d'asile l'embarquent pour réaffirmer qui il est et c'est quelque chose qu'il dit. Il dit, en fait, là-bas, j'étais quelqu'un. Ici, je suis plus personne. Et du coup, qu'il redevienne quelqu'un. Donc, elle avait vraiment cette fonction-là.
Y a une phrase de d'Habermas qui dit « Est citoyen celui qui produit du droit ?» Et à sa manière, en composant cette affiche, Idrissa, il fabrique aussi du droit, d'une certaine manière. Moi, qui ne suis pas investi de façon militante dans la, dans la défense des exilés, même bien entendu, si j'ai une conscience politique par rapport à cette à ces situations-là, moi j'aurais aimé que vous apportiez quelques éclaircissements sur certains dispositifs que moi j'ai découverts, je les connaissais pas du tout. Par exemple, le dispositif ADA, le paiement par carte bleue, c'est quoi ce truc-là ? Enfin, je suis sidéré, hein. Là, moi, je suis estomaqué, hein.
Oui, ça, alors ça, c'est quelque chose dont on parle souvent dans nos rencontres. En tout cas, je retransmettrai votre parole au côté Wikipédia du collectif, parce que moi, je suis le côté poétique. Il y a le côté Wikipédia qui voulait qu'on explicite absolument tout. Oui. Donc, on a réussi à trouver une via média. Ça lui fera plaisir de se dire qu'elle aurait aimé avoir, qu'il y aurait une personne qui aurait aimé avoir plus d'éclaircissement. Pour la question du droit, donc l'ADA, c'est l'aide aux demandeurs d'asile. C'est une allocation de 400 euros quand on n'a pas de logement et de 200 euros à peu près si on a un logement. Et donc, ça, vu que les personnes exilées n'ont pas le droit de travailler quand elles sont en procédure, elles ont cette allocation pour leur permettre de vivre. Et jusqu'en 5 novembre 2019, c'était de l'argent qui était payé... on pouvait retirer de l'argent et payer avec ça. Et à partir du 5 novembre, c'est devenu en paiement par carte bancaire uniquement. Ce qui fait que, et ça a l'air, enfin, pour nous, cet exemple illustre beaucoup la répression ordinaire que subissent les personnes exilées. Parce que ça a l'air de rien. Nous, on l'avait pas vu. Mais j'ai un ami qui m'a dit que de tout le processus, donc là, il est clandestin. Il est arrivé en 2018 en France. Sur tout ce processus, le moment où il s'est senti le plus mal, c'est à ce moment-là, parce que il pouvait, bah forcément, on peut pas payer de loyer en carte bancaire à Briançon, on pouvait pas payer pour moins de 10 euros, et ils ont essayé de trouver plein de solutions, notamment d'aller au supermarché et de dire aux gens, je vous donne ma carte et donnez-moi votre l'argent liquide et payez avec cette carte. Et les gens, vu qu'ils étaient gambiens, donc non francophones, ils ont cru qu'ils mendiaient. Et je crois que ce truc de comprendre que la personne en face pensait qu'il était un mendiant, lui, ça a été une des choses les plus difficiles.
La perversion des stratégies réglementaires pour dissuader, mettre de côté, écarter. Y a vraiment une véritable ingéniosité du législateur pour arriver à écarter ce qui l'embête. Hein.
J'espère qu'ils ne le font pas exprès, mais en tout cas, ça enquiquine bien.
Moi, j'aurais pas cette naïveté-là. Là, vous faites dire. Alors, c'est Akissi qui parle. Elle dit qu'elle est ravie parce qu'elle a enfin reçu le papier de la procédure normale. Et en fait, Sarah, presque ça la désespère parce qu'elle se dit finalement, c'est presque l'enfer qui va s'ouvrir sous ses pieds.
Oui, la procédure normale. Alors, il y a quand
là, c'est le côté Wikipédia. On a bien compris.
Oui, très bien. Bah, je suis très Wikipédia, c'est parce que là. la procédure normale. En gros, quand on demande l'asile, on rentre en procédure normale. Ça veut dire qu'on va, on rentre dans un processus où on va écrire un récit qui va être envoyé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), qui vont nous recevoir, enfin, qui vont les recevoir en entretien individuel pour dire. Pour qu'ils racontent leur histoire dans un entretien, et à la fin, ce sera oui. Si c'est oui, c'est bon, il y a les papiers. Si c'est non, ils font appel à la CNDA, la Cour nationale des droits d'asile. Voilà, donc ça, c'est le processus. Et je vous fais l'impasse sur les réexamens, tout ça, note de vulnérabilité. Mais en tout cas, ça, c'est la procédure. Ça, c'est bon, sauf pour les personnes qui sont passées par un autre pays. Ça, il rentre dans la procédure Dublin. Qui est la procédure, elle, dans l'idée, c'était pour faire que le premier pays où on arrive en Europe prend en charge la demande d'asile. Ce qui est assez injuste parce que c'est forcément pas la France et l'Angleterre qui vont être les premiers lorsque c'est, on parle de personnes qui viennent par la Libye ou par les Balkans. Cette procédure, c'est une procédure qui est avant la procédure normale, où la France dit à l'Italie, par exemple, parce que c'est les personnes que j'ai le plus rencontrées, cette personne est passée par vous, elle est dans les dossiers Eurodac, reprenez-la. Et l'Italie ne répond pas, donc qui ne dit mot consent, selon cette belle règle. Et du coup, la personne doit signer toutes les semaines à la préfecture ou avoir des rendez-vous tous les mois. Et à tout moment, elle peut être prise par les, elle peut recevoir une lettre de routage ou alors être arrêtée par la police aux frontières et être renvoyée en Italie ou dans le pays en tout cas dont elle dépend.
Être dublinée.
Ouais, être dublinée, c'est ça. Donc c'est une situation d'angoisse assez incroyable pour les personnes exilées, mais puisque il y a très peu de personnes qui bénéficient des droits d'asile après l'OFPRA à la CNDA, il y en a entre 35 et 40%. En tout, si c'est une personne, enfin, qui a des règles pour avoir l'asile qui sont très strictes, et que les réfugiés climatiques, les personnes les réfugiés économiques, les personnes qui ont eu des malheurs qui vont pas réussir à prouver, ne seront pas pris en charge par le droit d'asile. Donc, c'est aussi un moment où les personnes sont un peu en sursis, mais en tout cas, reçoivent l'ADA et ne sont pas ne se retrouvent pas sans rien comme après la procédure si ils sont rejetés. Donc
avant de faire une deuxième pause musicale, moi j'aimerais bien qu'on entende les mots de ce roman des Vies orageuses et j'aurais aimé que vous nous lisiez un extrait.
D'accord, avec plaisir. Et j'ai choisi les premiers mots du livre. C'est la voix d'Idrissa. Voilà, c'est là, je crois. Je n'ai pas oublié le papier, la convocation. C'est écrit en petit, veuillez vous rendre le mardi 12 février de 9h à 17h au CEDI pour un dépistage. Le même mot est sur le panneau, CEDI, en dessous, centre de dépistage et de diagnostic des infections. En grand bâtiment, à côté de la porte, c'est écrit CEDI 5e étage. La dame derrière le bureau m'a donné le papier et m'a dit « il faut y aller ». Elle a dit aussi, ne perdez pas le récépissé. Je n'ai pas osé dire que je n'ai pas compris. Avec l'accent de France, les mots deviennent compliqués. Récépissé. Après, j'ai vu que c'était marqué sur un autre papier qu'elle m'a donné. Idrissa Sangaré, ma photo. C'est ce papier qui dit que j'existe ici. C'est un papier d'identité, comme le passeport. J'ai pris une photo à la machine de la gare. On m'a dit de faire des photos comme ça et j'ai écrit sur un papier jaune. Catherine, du refuge à Briançon, m'a dit « mets tout là dedans, dans la pochette bleue, le récépissé aussi. » Et la convocation pour le dépistage. Et si suite à ça, on me retourne en Italie ou dans mon pays? Si on m'emmène en prison et ce rendez-vous, des heures et des heures pour me faire dire quoi? Pourquoi c'est long comme ça toute la journée? Ils vont vouloir que je raconte quoi? Et pourquoi encore? Il vaut mieux peut-être ne pas rentrer. La dame a dit « il faut » et elle avait l'air gentille. C'est Catherine qui a dit qu'il faut ou la dame d'ici? Trop de choses dans ma tête, trop, je ne sais plus. Et si c'était la prison?
Merci. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale.
Je me sers un grand verre d'eau bénite à la santé de mon fratello parti trop tôt. Sourire à l'envers endémique alimenté par ton absence sur la photo. La mort a le regard angélique donc on déteste les AR à l'hosto. Les taches de sang sur mon tennis me rappellent à tout grâce le cri du corbeau. Charognard aux deux yeux gorgés de sang plein. Au-dessus des âmes, les plus innocents je clame. La paix pour les miens, la mort pour les chiens. Mon cœur abrasif s'enflamme. Fra, tout son canne, capitaux, tout son canne. Fra, tout son canne, capitaux, tout son canne. Fratello mio, le monde vivant avant le retour à Dio. Beaucoup à bien prendre son temps, fais pas l'idiot. Pour revoir mon frère, je peux tout donner. Fratello mio, le monde vivant avant le retour à Dio. Beaucoup à bien prendre son temps, fais pas l'idiot. Pour revoir mon frère, je peux tout donner. Effacer hier, tout ce que je voulais, tout pardonner. Est-ce que je pourrais, j'étais mal passé. Sur ces déplorés, j'étais mal placé. Mais je me suis trouvé, fra. L'encens, le père, la croix, la vierge, le sang, la pierre, la foi, le cierge qui se consume, la flamme qui ondule, mes idées sont confuses. Je suis détruit lenteur, je me bousille l'instant, je sais même pas ce que je ressens, je sais même pas ce que je ressens. Que vais-je faire du restant de ma vie?
De ma vie.
Frappe, tout son canne, capitaux, tout son canne.
Tout son canne.
Frappe, tout son canne, capitaux, tout son canne.
Tout son canne.
Après le jazz, du rap. C'est rare dans Entre les Pages et pourtant le nombre d'artistes rap sur le territoire est réellement impressionnant. Là, c'était Ennio qui a chanté Le Cri du Corbeau. Vous écoutez toujours votre émission qui parle du monde des livres en Anjou et vous êtes bien calé sur la fréquence 101.5 à écouter Radio G. Et la conversation avec Mathilde Gall se continue. Vous m'avez fait le reproche dans la deuxième partie de cette rencontre de jouer sur le tableau Wikipédia et donc de ne pas aller au cœur.
Ce n'était pas un reproche.
Oh, j'ai senti ça. En tout cas, je l'ai pris comme tel. Et de ne pas m'intéresser ou de ne pas aller au cœur de l'écriture, finalement. Eh bien, on va essayer d'y aller. Il a fallu camper des personnages, leur donner une personnalité, une âme. On a entendu dans la lecture que vous avez faite celle d'Idrissa, moi en la réécoutant après l'avoir lue, dans ces quelques paragraphes, on a Idrissa sous les yeux. Il est là, il est présent, on entend sa voix, on voit toute la difficulté, toutes les difficultés auxquelles il est soumis. Parlons un peu de Sarah. Sarah, elle a 29 ans. Elle est naïve. Elle pense qu'elle peut changer le monde. Et elle-même, elle transgresse. Par exemple, elle fait ce qui relève quasiment du tabou pour une travailleuse ou un travailleur social, elle donne de l'argent à Adriana, une de ses patientes. Là aussi, cet acte, il illustre quoi de Sarah? Qu'est-ce qu'il nous dit de Sarah?
Il nous dit, en effet, vous avez raison, elle a confiance dans sa, enfin en tout cas elle est confrontée dans tout le livre au fait que son pouvoir d'action, il se heurte face à une sorte d'immense machine ou en tout cas une immense injustice et elle a du mal à accepter cette impuissance là. Sarah, nous ce qu'on voulait montrer c'était enfin en tout cas ce qui s'est dessiné petit à petit en écrivant le personnage de Sarah, c'est un peu en arc militant un peu classique de je n'y connais rien. Ah, c'est terrible, c'est horrible, je vais faire tout ce que je peux. Ma vie, enfin, comment je peux continuer à vivre ma vie alors qu'il y a des personnes qui galèrent autant que ça juste à ma porte, en tout cas juste devant mon bureau. Et Sarah, elle s'engage de toute son âme, de tout ce qu'elle peut, et elle s'engage principalement seule. Et ce geste de donner de l'argent, c'est bien solitaire en tout cas et je sais que nous maintenant moi je fais partie de collectifs et moi je considère que quand quelqu'un donne de l'argent toute seule à une personne sans passer par les cagnottes sans demander aux personnes du collectif qu'est-ce qu'elles en pensent, que c'est un moment où elles sont en train de perdre les pédales. Et Sarah, on la voit perdre les pédales, on la voit essayer tout dans toutes les directions possibles et pour finir par faire un burn-out militant qui est quelque chose qui est aussi classique qui m'est arrivé, qui est arrivé presque toutes les personnes avec qui j'étais à Briançon, de se faire manger par ce sentiment d'impuissance-là. En tout cas, et c'est avec ça que finit Sarah, avec cette sorte de fragilité de plus pouvoir agir et qui est aussi le moment qui permet que Idrissa agisse lui. Donc il y a une sorte de double mouvement.
Alors mais vous n'avez pas laissé Sarah seule. Il y a Myriam qui est là, la chef. Elle est la raison incarnée. Elle va rappeler à Sarah son métier. C'est-à-dire lui dire, attention, à vous toute seule, vous résoudrez pas toute la misère du monde, quoi. Vous êtes d'accord avec les propos de Myriam ?
Je pense en effet que c'est important de se dire que l'endroit où on peut aider, c'est en faisant ce qu'on arrive, qu'on sait le mieux faire. Et moi, ce que de plus en plus je vois la militance ou la lutte politique comme une affaire de constellation. Qu'à un endroit, il y a quelqu'un qui fait quelque chose de petit, mais que en fait, c'est en résonance avec plein d'autres personnes qui font d'autres choses. Essayer de tout faire. En fait, comme le fait Sarah, ça mène à la destruction. Alors que c'est ce qu'on a vécu à Briançon, où on devait gérer à la fois des demandes administratives, à la fois des personnes qui étaient dans la montagne, à la fois des pouvoirs publics qui, à un moment, ont été très durs. Enfin, ça fait tirer dans toutes les. Et je crois pas à la société des experts, mais je crois qu'en tout cas, se contenter de faire quelque chose de partiel, c'est ce qui permet de tenir le long terme.
Alors Sarah, je l'ai dit, hein, moi je la qualifie de naïve, hein, mais c'est pas péjoratif. C'est un état parce qu'on n'a pas toutes les clés, on n'a pas toutes les compréhensions. Peut-être qu'elle manque très certainement de formation politique, Sarah. Hein, elle déboule là-dedans. D'ailleurs, elle se dit mais qu'est-ce que je viens faire dans ce centre de prévention. C'est une jeune femme de son temps. Elle a vécu en ermite jusqu'à sa thèse, mais là elle fait la fête avec ses copines, colloque, elle boit. Parfois un peu trop, elle est en retard, souvent au boulot, elle roule à vélo bien sûr, hein, et puis elle se prend le réel, mais alors vraiment en pleine tête, quoi. Enfin, ça y va très fort. C'est vraiment une situation violente dans laquelle vous la mettez.
Eh ben, je pense que c'est parce que c'est la situation que j'ai vécue. Et que on est nombreux et nombreuses à avoir vécu. Enfin, je sais une personne du collectif qui s'appelle Claire et qui est très engagée. Elle, le passage qui lui parle le plus de Sarah, c'est quand elle se rend compte que ses patients dorment dehors, parce que ça fait vraiment écho à quelque chose qu'elle a vécu aussi. Le fait de se rendre compte que quelqu'un qu'on rencontre et sur lequel on calque une réalité qui est la nôtre, en fait, est à 100 000 lieues de cette réalité. Et en effet. J'avais pas réfléchi comme ça, mais c'est vrai que c'est d'une violence extrême, et pourtant c'est ce qui peuple notre monde. Et en tout cas à Briançon, nous où la plupart des personnes racisées étaient des personnes exilées, il y a un moment où il y a des gens qui réussissaient à faire comme s'ils les voyaient pas, mais moi j'ai jamais réussi. Enfin, c'était partout.
Alors dans ce roman, il y a un twist qu'on ne voit pas arriver, mais il y en a un. C'est Irissa. C'est un personnage particulier. Parce que, à la fin du roman, il y a un élément qui est révélé de lui. Il est sage-femme dans son pays. Qu'est-ce qui fait que, alors, ce métier crée un quasi-lien avec Sarah. Qu'est-ce qui fait que vous avez créé cette strate supplémentaire dans le personnage d'Idrissa?
Eh bien, il y a plusieurs raisons. Déjà, Idrissa, il est formé de trois personnages, dont un personnage est gambien, un ami qui s'appelle Pa, et qui lui était sage-femme aussi dans son pays. Donc il y avait il a travaillé comme sage-femme en tout cas. Il y avait je savais que c'était possible. Et puis, pour moi, on parle beaucoup de médecine, et j'avais envie que ça soit pas simplement les blancs qui détiennent un savoir et les racisés qui en bénéficient, ou en tout cas quelque chose de cet ordre-là qui peuvent être souvent présentés comme avec le fait que l'expertise et tout ça. Je voulais qu'on se rende compte que Sarah et Idrissa, ils étaient quelque part à égalité. Et que si Idrissa était dans une situation qui était horrible à ce moment-là, Sarah aurait pu s'y retrouver aussi dans un autre pays. Enfin, en tout cas, faire une sorte de parallèle. Je voulais aussi que ça soit un métier qui soit plutôt à connotation féminine, pour casser aussi une sorte de machisme qu'on associe aux personnes africaines. Et que ce personnage, on atteigne une certaine délicatesse par ce métier-là, parce qu'il en dit aussi, et que il soit à la fin, et plusieurs fois il fait référence à la santé, quand il essaye d'expliquer à un des personnages que si on lui prend le sang, c'est pas pour lui faire du mal. Donc il a quand même un rapport à la santé qui se construit petit à petit, Et enfin, c'était important pour moi qu'on le sache pas depuis le début parce que la situation de l'exil met les personnes exilées dans une grande passivité, une grande attente. Et on a l'impression et qui gomme tous leurs talents. Enfin, en fait, ils ont plus le droit de travailler. Ils ont quand ils vont dans des assos, ils ont que le droit de faire du bénévolat de base. Ils sont jamais, même s'ils restent 4-5 ans, ils sont jamais à des postes de décision. Et je voulais que à la fin on se rende compte, l'exil crée une sorte d'état dépressif latent hein, souvent. Et je voulais que on se rende compte qu'en fait il n'était pas que ça et que on est grand, on est traversé tout le livre en croyant qu'Idrissa était quelqu'un et qu'en fait on se rend compte qu'il n'est pas que ça.
Alors on l'a entendu dans le passage que vous avez lu. Malgré tout, dès les premiers mots, dès la première intervention d'Idrissa, on entend un personnage qui a une certaine élégance morale, intellectuelle, enfin qui n'est pas dans une brutalité, qui est plutôt dans une douceur, chercher à comprendre, mais la manière dont c'est écrit laisse passer de la douceur, enfin pour moi de l'élégance d'ailleurs. Hein. Les personnes qui ont rédigé ce livre, en tout cas qui ont collaboré à sa construction, j'ai cru comprendre que ce ne sont que des femmes.
Eh bien, alors les personnes qui, les personnes qui étaient à l'origine, c'était des femmes. Après, il y a eu les trois personnes qui ont donné leur parole pour Idrissa, dont l'élégance, vient un peu de Boubacar, qui est une personne nigérienne qui a cette douceur-là, enfin que j'aime, qui est un très bon ami. Et après, le collectif s'est étoffé pendant la relecture, puisqu'on a été 8 à lire le texte à voix haute 2 fois par mois. Et dans ce groupe-là, il y avait notamment Mamdi, qui est guinéen, et qui lui a permis, en tout cas, d'apporter aussi une sorte de ton juste en travaillant les expressions pour qu'elles soient guinéennes et pas camerounaises. Moi, j'avais plus l'habitude du français camerounais, donc j'écrivais plutôt avec un point de vue camerounais, enfin, avec des expressions camerounaises. Donc, il nous a aidé à restructurer, à voir aussi les biais racistes dans l'écriture et à pouvoir les gommer. Et c'est grâce à ce travail-là et aussi à celui de Claire qui a allé voir plein de gens de toutes les nationalités pour savoir, enfin, à chaque fois qu'il y avait un personnage d'une nationalité, elle allait voir un ressortissant ou une ressortissante en lui demandant « Est-ce que ça, on peut le dire comme ça ? Est-ce que les boubous, il y en a en Angola ?» Enfin, sur des faits culturels pour que ça soit des faits localisés et pas simplement africains. Et du coup, c'est tout ce processus-là qui a permis de donner une justesse de ton. Mon travail a été extrêmement respecté, mais il y a eu quelque chose de merveilleux qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'on a décidé de porter le roman. Il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Il y en a d'autres qui sont arrivées et on continue comme ça. Donc il y a beaucoup plus de personnes blanches, il y a beaucoup plus de femmes, mais il y a aussi quelques personnes exilées et quelques hommes.
Alors on l'a entendu, hein, à l'origine de l'origine de l'origine, vous c'est 5 minutes après l'origine, hein, ça on l'a bien entendu dès le début, 2 femmes médecins. Écrire, mettre en mots, ça a une vertu thérapeutique. C'est pouvoir exorciser sa colère.
Je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, il y avait vraiment la volonté de parler, de transmettre.
Oui,
et on s'est dit, en fait, on n'est pas très sûr de faire des rencontres aujourd'hui pour parler de notre livre ou d'avoir écrit notre livre pour faire des rencontres. Donc ça, c'était notre point de vue, notre thèse, c'était les personnes exilées sont une richesse pour nous, pour notre pays. Donc ça, c'était ce qu'on voulait poser. Et sur le chemin, moi, je vous ai dit, hein, j'ai fait un joli burn-out, j'ai eu un accident d'escalade en 2019, et le fait d'écrire ce roman, ça m'a permis de relire ce qui s'était passé, de voir aussi les belles choses qui en étaient sorties, et dans le collectif de la relecture, on a pu échanger sur ce qu'on avait vécu en disant ah bah ça par exemple Claire qui dit ah oui je me rappelle quand je me suis rendu compte que les personnes étaient à la rue enfin et on s'est rendu compte que les difficultés qu'on avait vécues en tant qu'individu on avait été nombreux et nombreuses à les vivre et que c'était plus que nous c'était un système qui était certes injuste qui créait certes de l'impuissance mais auquel on pouvait en tout cas ne pas se responsabiliser, ça nous permettait de retrouver du pouvoir d'action.
Vous êtes en résidence, je l'ai dit hein, en introduction, à la maison Julien Gracq. Je sais que vous participez à un atelier d'écriture à la maison d'arrêt d'Angers, mais votre projet d'écriture sur la résidence, c'est quoi ?
C'est très différent. C'est un roman historique que j'avais commencé à approcher avant d'écrire Des vies orageuses, qui raconte, donc je vous avais dit que j'aimais beaucoup la montagne, qui raconte l'histoire de Éléonore, qui est une jeune Anglaise du 19e siècle, et qui prétend être un homme pour pouvoir faire de l'alpinisme. Donc c'est pour moi il y a un lien parce que ça laisse, ça donne la, ça crée des, ça met au jour des histoires qu'on ne connaît peu, mais le lien est ténu.
La littérature d'escalade, elle est quand même dense, hein. Enfin, il y a beaucoup de comptes rendus, il y a des romans qui existent. Dans ces auteurs romanciers, il y a quelqu'un qui vous touche tout particulièrement dans ces auteurs de la montagne, on va dire ?
Eh bien, justement, c'est un peu ce roman, il sera un peu en réaction à la littérature de la montagne. L'autrice qui me touche beaucoup, c'est Ursula K. Le Guin quand elle écrit La fiction panier.
Ah oui, mais là, on est, attention, Ursula Le Guin, quand même.
Oui, mais
on est ailleurs, quand même.
On est ailleurs, mais pour moi, c'est très important de ramener cette notion, donc la théorie de la fiction panier, c'est de dire que il y a plusieurs manières de raconter des histoires, que nos histoires sont souvent fondées sur l'histoire d'un mec qui fait un truc, donc une quête avec un but, mais que au détriment de raconter les relations entre les gens. Et en montagne, c'est beaucoup ça, c'est très fondé sur la performance, sur l'exploit. Or, c'est l'alpinisme est un des seuls sports où c'est impossible, en tout cas les sports individuels, où c'est impossible de le faire seul. On le fait toujours en cordée, toujours accompagné. Et mon défi, c'est d'arriver à raconter de raconter l'histoire, cette histoire d'alpinisme en m'intéressant plus au lien entre les gens qu'au but recherché.
Margot Wannard, qui est scotchée sur son téléphone comme un adolescent de 17 ans, voilà, et qui n'a aucune excuse.
Ça fait en lien avec la maison Julien Gracq.
Ce n'est pas d'excuse.
Je vous ai.
Merci. L'actualité de la maison Julien Gracq, à partir de cette émission du 2 juillet, c'est quoi l'actualité ?
Ça sera le 5 juillet, donc un samedi à la maison, une journée d'événements, donc qui commencera avec Mathilde, avec un atelier d'écriture le matin. On invitera les participants à l'atelier et les autres personnes venant à la maison à déjeuner dans le jardin avec leur propre pique-nique. Gwen de Bonneval fera une visite commentée de son exposition Filiature, venant du livre Filiation.
Oh là là, il va falloir que je vienne. Mais oui, il faut que je vienne. Bah oui.
Ensuite, on fera une fenêtre sur Loire, dont le nom sera De l'Aproage au Bramapoutre, donc avec Raoul Bismol, qui est résident en juillet dans le cadre des résidences Swagatam, et Natifa Michel, qui sera présent dans le cadre d'une résidence avec le centre Claude Cahin de Nantes, qui est photographe. Ce temps fort-là se terminera par une lecture de Mathilde, d'un de ses textes. Puis un concert, une répétition, une sortie de répétition. Il y aura un petit concert collectif musical des Mauges, qui répétera du coup en public ce jour-là. Et enfin, pour terminer cette belle journée, une présentation de l'ouvrage Architecture et littérature, écrit par Christina Barrios et Yann Gauchard dans le cadre de leur résidence, qui s'appelle Des Mohicans dans les Mauges. Donc en présence de Yokna, qui a travaillé avec eux sur la mise en page de ce travail, et bien sûr de la Maison Régionale de l'Architecture.
Beau programme, bel été qui s'annonce, puisque il faut le dire, la Maison Julien Gracq ne ferme pas l'été, elle reste ouverte. Je vous remercie Mathilde d'être venue dans le studio de Radio G. Merci Margot, l'assistante, conductrice, animatrice culturelle, enfin bref, multicarte de la Maison Julien Gracq. Je vous souhaite une bonne journée, au revoir. Entre les pages, c'est terminé. Avant de refermer la porte du studio, vous rappelez que Entre les pages ne s'interrompt pas pendant l'été. Au cours des mois de juillet et août, je vous invite à pénétrer dans des bibliothèques insolites. J'en ai sélectionné quatre. La bibliothèque du château de Serrans, la bibliothèque sonore de Segré, celle de la Société d'horticulture d'Angers et du Maine-et-Loire, et enfin celle de la Maison d'arrêt d'Angers. Vous l'entendrez, le voyage mérite le détour. Au cours de cette émission, vous avez entendu le groupe Bodies qui a joué Anti-Dancing League et Igno qui a chanté Le cri du corbeau. Vous retrouverez toutes les informations et tous les liens relatifs à ce 153e épisode sur la page de Entre les pages, sur le site de Radio G, à la date de l'émission. Le prochain rendez-vous, ce sera donc le mercredi 16 juillet à 17h. Je vous emmènerai dans la superbe bibliothèque du château de Serran. Dans quelques instants, ce sera le journal de 18h de RFI et puis votre magazine Topette. Je vous souhaite une excellente soirée. Et maintenant...
In 500 meters, go straight and then go straight.
Générique.
Radio G, 101.5 FM, en DAB+, sur Angers. Radio G, un point c'est tout.